Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à la déclaration du président français Emmanuel Macron au sommet G20. Selon lui, le taux de fécondité en Afrique est facteur d'appauvrissement. Les parlementaires de la CEDEAO semblent donc se résigner à cette assertion en luttant désormais contre la forte démographie africaine. La proclamation finale de la rencontre des parlementaires de la CEDEAO au Burkina Faso ce week-end fixe un objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Nous avons comme invité Balkissa Yattara, chef de division recherche à la Direction nationale de la population, Ali Tungara, sociologue, Djenéba Idara, présidente du collectif des femmes du Mali COFEM, Aminata Faye, chargée de stratégie et politique à la Fédération nationale des collectifs et organisations féminines FENASCOM. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue. Alors, Madame Yattara, est-ce vrai que le taux de fécondité est un facteur d'appauvrissement de l'Afrique, comme l'a déclaré Macron?
Merci beaucoup, Madame. Donc, je vais me présenter. Je suis Madame Sidla Balkissa Yattara. Je suis chef de division à la Direction nationale de la population. Donc, avant de répondre à cette assertion, je vais d'abord vous dire que nous, au niveau de la Direction nationale de la population, on a une politique de population. La politique de population, son objectif principal, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie de population à travers la santé, l'éducation, l'environnement et les logements. Donc, c'est une question transversale. Donc, tout ce que nous le faisons avec l'ensemble des départements sectoriels. Donc, nous ne prenons pas de décision seul. Tout ce que nous faisons avec les autres secteurs. Bon, pour ce qui concerne la politique de population en question, comme je l'ai dit, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. On a des objectifs qui sont fixés. Donc, les objectifs, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'amélioration des qualités de vie des populations à travers l'ensemble des secteurs. Bon, ça, c'est une assertion de Macron. Je venais juste de l'apprendre également. Nous, tout ce que nous faisons, on ne le fait pas seul. Hein. Tout ce que nous le faisons avec l'ensemble des départements, comme je l'ai dit. Les questions de population sont vraiment transversales et complexes. Donc, c'est une assertion de M. Macron, ça n'engage que lui. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ça, c'est une assertion que vous avez lue. Est-ce qu'il a des idées derrière? On ne peut pas annoncer les choses comme ça. Bon, s'il le dit, c'est en connaissance de cause.
D'accord. Okay. Alors, Madame Djenéba Idara, selon vous, est-ce que le taux de fécondité est un facteur d'appauvrissement de l'Afrique, comme le déclare Macron? Allô?
Allô, oui?
Oui, vous m'attendez, Madame Djenéba Idara? Allô? Alors, excusez-nous pour ce panne technique. Nous allons passer alors à Madame Aminata Faye. Vous nous entendez?
Oui, je vous entends bien.
D'accord. Madame Aminata Faye, est-ce que selon vous, le taux de fécondité est un facteur d'appauvrissement de l'Afrique, comme le déclare Macron?
Bon, je vous remercie d'abord pour m'avoir posé cette question. Je remercie vraiment tous les participants à ce débat. Comme l'autre a eu à le dire, hein, c'est un problème un peu complexe. C'est un peu complexe et transversal. Et il faut tenir compte aussi des réalités sociales de nos pays. Parce que déjà, au Mali, nous sommes à 95% musulmans. Et la religion condamne certaines pratiques. Mais bon, ça, ce que Macron a dit, ça n'engage que lui, hein, comme l'autre l'a dit, ça n'engage que lui. Mais la politique de démographie, je pense qu'il faut revoir ça parce que je pense que cette démographie est en avance par rapport au développement. Donc si on compare développement et démographie, on peut dire que vraiment il faut qu'il y ait un ralentissement quand même du taux de natalité. Mais bon, en faire une loi, ça c'est un peu trop parce que c'est des choses qui sont là, des pratiques qui sont là, et il faut tenir compte vraiment du contexte social. Donc ça c'est mon point de vue.
D'accord. Nous revenons à vous, Madame Djenaba Idara. Vous nous entendez maintenant? Allô? Excusez encore pour ce petit panne technique. Alors, Madame Yatara, est-ce que selon vous, la pauvreté est-elle induite de l'excès d'enfantement?
Bon, c'est là, je crois que c'est vraiment, ça dépend également hein, de la compréhension de ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Comme il l'a dit, elle venait de dire tout de suite là, par rapport aux questions de population, c'est des questions complexes. L'élaboration d'une politique de population, je vais revenir toujours parce que je ne veux pas parler d'autre chose à part ce qui se trouve dans notre politique de population. Dans la politique de population, j'ai dit que l'objectif, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'ensemble des secteurs. Et cette politique a des principes. Les principes, c'est quoi? C'était vraiment de donner la latitude, le libre choix aux individus, aux populations, de pouvoir décider librement du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances. Comme elle l'a dit également, il y a tout ce que nous visons. C'est vraiment qu'il y ait une adéquation entre la croissance économique et la croissance démographique. On a constaté au Mali quel est le problème qui se pose. Quand tu prends la structure par âge de la population, les enfants de moins de 15 ans représentent 47% de la population. Et quand tu vois ces jeunes-là, il y a un problème d'emploi qui se pose. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Il y a le problème de santé qui se pose. Donc, c'est vraiment un défi qui se pose à l'État, présentement. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de voir, pour ne pas dire de maîtriser la croissance et de maîtriser le taux de fécondité. Moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus, parce que nous, tout ce que nous visons, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des populations. Et qu'il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre la croissance économique et la croissance démographique.
D'accord. Alors, Monsieur Tunkara, est-ce vrai que le taux de fécondité est un facteur d'appauvrissement de l'Afrique, comme le déclare Macron?
Naturellement, personne ne peut le nier aujourd'hui que la fécondité non maîtrisée, pas que pour l'Afrique d'ailleurs, même pour les sociétés dites économiquement avancées, la natalité est quelque chose à maîtriser. Alors, si vous prenez un peu nos différents États africains, vous allez vous rendre compte quand même que l'une des difficultés auxquelles ces différents États sont aujourd'hui confrontés, c'est cette croissance galopante, tant du point de vue urbain que du point de vue rural. Je crois que chercher à établir un lien entre le taux de la natalité ou la fécondité et la croissance économique, le lien est facile à établir. On n'a pas besoin d'aller dans des grandes écoles pour le comprendre. Alors prenez justement le pouvoir d'achat de nos différentes sociétés et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'accès même à des moyens de mobilité, tout cela exige justement d'avoir des conditions plus ou moins quand même acceptables. Pour ce faire, je crois, fondamentalement, même si le fait que l'idée est venue de Macron, c'est cela qui choque aujourd'hui quand même un peu l'élite politique africaine, mais l'idée en soi est une évidence. Aujourd'hui, tout bon sens accepterait qu'on soit religieux ou non religieux, qu'aujourd'hui, la question démographique, notamment dans les pays en voie de développement, les cas particuliers de l'Afrique, est une question dont il faut apporter des solutions tout à fait durables. Lesquelles solutions, justement, vont nous exiger d'abord de nous exercer des privations et des sacrifices afin d'assurer une éducation de qualité à nos enfants. Et tout le monde le sait aujourd'hui, de l'école primaire à l'université cités, des sommes importantes sont demandées à investir. Tout le monde sait aujourd'hui que dans nos centres urbains, c'est faire un local pour qui peut abriter sa famille n'est pas du tout tâche aisée. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le numérique qui était le symbole de la recherche est une réalité dépassée. Vous voyez, donc entre autres, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, le citoyen lambda est censé comprendre que il y a effectivement un lien à établir entre la croissance démographique et toutes ces difficultés auxquelles nos États font l'objet.
D'accord. Écoutons l'avis de certains religieux, notamment les chrétiens, concernant cette mesure.
C'est une solution salutaire pour le développement de la zone, mais avec tous les risques que cela comporte, parce que vu le niveau d'instruction de nos populations, je pense que ça nécessite une très grande sensibilisation d'abord. Quand la Bible dit « multipliez-vous », la Bible ne demande pas à une seule personne de remplir la terre. Si nous avons 2-3 enfants, sinon même 4, c'est largement suffisant. Les salaires que nous avons ne nous permettent vraiment pas de pouvoir entretenir une famille de 8 enfants, 10 enfants. Tout un enfant, c'est une responsabilité. Hein. Quand j'ai un enfant, j'ai une responsabilité. Et quand j'ai 4, hein, j'ai 5 responsabilités. Je dois le nourrir, je dois l'habiller, je dois tenir compte de sa santé et je dois tenir compte de son éducation, une meilleure éducation. Et si tu veux faire ça pour même 3 personnes, moi je dis que bon, 3, c'est vraiment déjà la fourchette, c'est déjà bon. Même 2 enfants, c'est vraiment bien. La mesure pourra passer si on est prêt à faire une longue sensibilisation. Qu'on ne se hâte pas sur le problème, mais qu'on essaie de commencer par la sensibilisation au niveau des radios, au niveau des leaders religieux au niveau, à tous les niveaux, quoi.
D'accord. Vous venez d'écouter cette intervention. Êtes-vous du même avis, Madame Yatara?
Moi, je suis ravie d'entendre les religieux et j'ai écouté également mon collègue qui est là pour tout ce qu'il a eu à dire. Moi, en tant que population, je ne voulais pas me prononcer là-dessus pour parler vraiment des impacts de la croissance démographique, surtout sur le développement de façon générale. Mais je suis ravie d'entendre les interlocuteurs pour ce qu'ils venaient de dire. Je pense par rapport à la croissance démographique, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Parce que, comme il l'a dit, quelqu'un l'a dit, peut-être c'est Mohamed même qui l'a dit, avant on avait des réalités. Les gens disaient qu'il faut faire des enfants. Les enfants, on le fait, certains peuvent mourir comme certains peuvent vivre. Alors que présentement, on a constaté qu'il y a une baisse de la mortalité. Mais cette baisse-là n'est pas suivie de la baisse de la fécondité. Là, ça crée des problèmes. Quand tu prends le milieu rural, par exemple, avant, on faisait beaucoup d'enfants pour permettre aux enfants de nous aider dans les travaux champêtres. Tel n'est pas respecté. Quand vous venez à Bamako, les jeunes que vous rencontrez qui vendent de les cartes de recharge, qui font des petits travaux, qui ne font absolument rien. C'est des gens qui viennent du milieu rural. Les parents ont préféré faire beaucoup d'enfants. Et maintenant, est-ce que ça a servi? Pas grand-chose. Donc maintenant, c'est à nous de voir nos politiques, de pouvoir vraiment essayer de faire une adéquation entre la croissance démographique, comme je l'ai dit, et la croissance économique, pour pouvoir un peu booster. C'est que nous voulons. Il y a un concept même que je voulais ajouter, d'où le projet sur le dividende démographique. Ça intervient dans ce sens, mais certains ont une autre compréhension de la chose. On a dit que les ressources humaines, ils représentent le socle de tout développement. Mais quand vous faites des ressources humaines qui sont là, qui ne sont pas aptes à travailler, qui ne sont pas opérationnelles, qui ne sont pas éduquées, ils ne sont pas soignés, qu'est-ce que vous allez attendre de ces enfants? Et c'est des enfants qui seront là, qui ne seront pas du tout compétitifs, que ce soit au niveau national, régional ou international. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de voir les stratégies qu'on met en œuvre, c'est-à-dire nos politiques et nos stratégies. Essayer de voir ces éléments pour vraiment assurer l'adéquation entre ce que nous faisons.
Et quelles peuvent être ces stratégies?
Les stratégies sont là. Les stratégies sont là. Maintenant, les enfants qui sont là, quand on prend la pyramide des âges, quand tu vois la pyramide du Mali, tu vois que le bas est très large. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants en charge qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants? L'État, au lieu d'investir pour créer de l'emploi, l'État ne peut pas. Il est obligé. Maintenant, tout ce que l'État a, d'investir maintenant dans la création des services sociaux de base. Il faut soigner ces enfants-là, il faut les éduquer. Mais tu vas voir beaucoup d'enfants là qui ont l'âge d'aller à l'école, mais ils sont éduqués. ils sont pas éduqués. Donc maintenant, il faut investir maintenant dans ces jeunes-là qui sont là. Les pousser maintenant à aller vers l'âge adulte. Maintenant, essayer de réduire un peu la charge de l'État pour essayer de programmer, de créer de l'emploi. De l'emploi de qualité à ces jeunes-là pour permettre au moins de pouvoir se prendre en charge et de prendre même les parents en charge. Quand on prend également les mêmes jeunes-là, je dis que les jeunes représentent 47% de la population. Et quand tu prends le taux de dépendance, 44 jeunes travaillent pour nourrir 100 personnes. Donc ça, c'est des défis qui sont là, qui se posent à l'État.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation?
C'est le taux de croix.
D'accord. Alors, Madame Djenebaï Dara, êtes-vous avec nous? Allô?
Oui, allô?
Alors, allô?
Allô, oui?
C'est bon maintenant, vous nous entendez?
Oui, oui, je vous entends.
D'accord. Vous venez d'écouter Monsieur Tunkara et Madame Yétara tout de suite. Êtes-vous du même avis qu'eux?
Je suis du même avis que, et je ne suis pas du même avis que, parce que d'abord, pour, si on prend des décisions comme ça, il faut d'abord informer les acteurs à la base, les femmes qui sont à la base. Non, c'est ça qui pose le problème. Si on n'a pas l'information, on n'est pas informé, on n'est pas à sensibiliser, la communication n'a pas passé, bon, ce n'est pas facile de comprendre. Et il y a ça. Ensuite, ça dépend des femmes. Combien de femmes peuvent faire d'enfants? Combien de femmes ne peuvent pas faire d'enfants? Il faut voir ce côté aussi. Et aussi, il faut voir le côté religieux. Bon, ici, chez nous, on ne sait pas si les religieux sont d'accord ou pas. Bon. Les femmes qui sont à la base, j'ai contacté certaines. Ils m'ont fait savoir qu'elles ne sont pas, d'abord, elles ne sont pas au courant de ça. Deuxièmement, quand on fait les enfants, c'est leur avenir. Hein? Et soit beaucoup d'intellectuels sont d'accord, mais les profanes qui n'ont pas été à l'école, on fait les enfants. Ceux qui vont vivre vivant, ceux qui vont mourir, parce que on ne sait pas. Et l'enfant, c'est Dieu, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et c'est Dieu qui peut prendre en charge les besoins de l'enfant, les besoins de la famille.
D'accord, bon. Madame Aïdara. Allô?
Oui.
Oui. Alors, je vous propose pour le moment d'écouter ce que pensent les musulmans.
Qu'en réalité, le problème de l'espace CDAO n'est pas un problème de naissance, c'est un problème de gouvernance. Vous savez, tout l'espace CDAO réuni ne fait pas la moitié de certains pays qui pourtant se développent. Toute l'Afrique réunie n'atteint pas la population de la Chine. Ça ne leur a pas empêché vraiment de nourrir les milliards de bouches qu'ils ont, les soigner, les entretenir et soigner même et entretenir le reste du monde. Donc vraiment, c'est des faux problèmes. C'est vrai qu'il faut peut-être faire en sorte que les femmes soient en bonne santé, les enfants soient en bonne santé, dans l'espacement de naissance et autres, ça, on peut le faire pour des problèmes sanitaires, des problèmes médicaux, d'accord. Mais s'il s'agit de développement, c'était un faux problème. Cette théorie ne tient pas debout. Je ne pense pas que ça soit envisageable qu'on aille vraiment dans des théories comme ça. Nous avons 1 million et quelques kilomètres carrés ici, où les 3/4 du Mali ne sont pas habités. Aujourd'hui, si on doit vraiment limiter à 2 ou bien 3, parce que c'est avec ça qu'on va se développer. Non, je pense que ça, vraiment, c'est des théories qui ne tient pas.
Alors, Monsieur Tunkara, est-ce que vous êtes du même avis que les musulmans?
Alors, je crois qu'il faut, vraiment beaucoup nuancer cet argument très religieux. Moi, je suis d'accord avec l'avis en partie. Lorsque il y a l'idée de l'imposer, là, je suis pas d'accord qu'on impose un nombre T à une femme. Mais toujours est-il qu'il est quand même une évidence qu'aujourd'hui, la croissance démographique, même du point de vue religieux, moi, j'invite les musulmans à ne pas faire des lectures isolées, en fait. Je respecte beaucoup le responsable du Haut Conseil islamique, mais sauf que, quand vous lisez les travaux de Imran Hussein, qui est une autorité religieuse musulmane. Et qu'est-ce qu'il dit concrètement face à toutes ces questions liées à la démographie, toutes ces questions liées justement à l'âge de la jeune fille pour le mariage? Et, essentiellement, les différentes communautés musulmanes font des lectures isolées. Certes, le prêtre l'a dit, toute religion monothéiste souhaiterait qu'il y ait plus de naissances, mais laquelle naissance justement? Il s'agit d'une naissance maîtrisée. Je suis persuadé qu'un islam n'a pas besoin de fidèles non préparés. L'islam n'a pas besoin de milliers de personnes qui peinent à avoir une éducation soignée. Or, aller à l'école est une obligation en islam. Vous voyez donc finalement, lorsqu'on fait des lectures isolées, en oubliant que le fait d'aller à l'école est un droit pour l'enfant, si vous n'êtes pas en mesure d'accomplir ce droit et donner naissance à un enfant, est aussi un crime, pas au nom du droit, mais au nom de l'islam justement. Le fait de soigner un enfant, c'est un droit au nom de l'islam. Si vos avoirs ne vous permettent pas de soigner votre enfant, vous êtes un criminel, pas au nom du droit positif, mais au nom du même islam. Donc vous voyez finalement, dans le contexte malien, je crois que les gens sont plus dans le sensationnel que dans le réel. À vrai dire, je suis d'accord qu'une telle philosophie, lorsqu'elle est émise par un occidental, ça fait plus de bruit. Mais je crois que lorsque nous sortons de l'escalade émotionnelle, de saisir le réel face en face et de nous intéresser au texte sacré, non de façon isolée, mais dans leur globalité. Je crois que c'est ce que le Haut Conseil islamique doit intégrer également dans son analyse, que au-delà du fait que le prophète de l'islam encourage à plus de naissances, mais attention, il faut relativiser le contexte dans lequel effectivement cet encouragement a été, ou ce conseil a été produit. C'est cela qui pose pour énormément de difficultés, tant dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Les gens sont plus dans des lectures plutôt isolées et non globalisantes.
D'accord. Alors, Madame Aminata Faye, vous nous entendez?
Oui, je vous entends bien.
Alors, vous venez d'écouter tout de suite Monsieur Tunkara. Êtes-vous du même avis que lui?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas tellement d'accord, c'est avec le religieux par rapport au religieux, ce qu'il vient de dire, parce qu'il a donné le cas de la Chine. En Chine, il y a une politique de démographie qui est là. Cette politique est respectée à la lettre. Et il parle de la superficie du Mali. La superficie du Mali, je peux dire que c'est le tiers de la superficie qui est occupée ici. L'autre tiers, c'est presque le désert qui est là. Mais il faut voir aussi cette politique. Parce qu'on parle ici de déplacement de naissance, on ne parle pas de limitation. Mais vraiment, je pense qu'à la longue, on ira vers la limitation. Parce que quand nous voyons tous ces gens-là, tous ces enfants-là, dans la rue, qui sont dans la rue, les petits talibés qui sont dans la rue, qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas à l'école, qui ne font rien. Mais en fait, est-ce que c'est des talibés? Ce n'est pas des talibés, vous voyez? Donc finalement, ils vont finir par être des petits vagabonds, des petits délinquants. Et la population, je peux dire que le gouvernement aura des problèmes par rapport à leur réinsertion. Et par rapport à autre chose, si nous voyons ces gens-là, ces femmes qui font beaucoup plus d'enfants, je peux dire que je fais partie. Hein. Nous sommes démunis. C'est des femmes très démunies. Avant, le nombre d'enfants, c'était très important parce que c'était des bras valides. C'était des bras valides. Les gens avaient des grands champs. Donc, si tu as beaucoup d'enfants, donc ces enfants vont t'aider vraiment à faire des travaux. Plus le cas maintenant, c'est l'exode. Tous ces jeunes-là, ils viennent remplir la capitale. Et ils ne sont pas à un niveau. Vraiment un certain niveau d'éducation. C'est vraiment difficile. C'est ce que j'ai dit, le problème est vraiment très complexe, transversal.
D'accord.
Il faut bien réfléchir, essayer de sensibiliser les gens. Il faut la sensibilisation à la base pour que les gens comprennent vraiment que démographie et développement vont de pair.
D'accord. Alors, Madame Yattara, est-ce que la jeunesse malienne est-elle un risque ou un potentiel?
Ok, merci madame. Mais avant de répondre à ta question, permettez-moi de répondre. Je vais juste aborder un peu sur la question de cette déclaration encore. Mmh. En fait, je crois que nous sommes en train d'aller vite aux besoins. C'est une déclaration qui avait été faite. Je ne sais pas, comme je t'avais dit, que nous, au niveau de la société, généralement, quand il y a des questions de population de ce type, le gouvernement va alerter au sein du gouvernement les responsables se l'ont alerté par rapport à cette déclaration. Donc maintenant, il va avoir aussi une feuille de route par rapport à la discussion des questions de population également. Ce n'est pas des questions simples à gérer. Ce n'est pas une question où tu prends la responsabilité, tu l'adoptes. Ce n'est pas comme ça. C'est des questions vraiment complexes. Donc pour aller vers cette baisse de fécondité, il y a toute une stratégie qui va être dégagée autour avant d'adopter cette déclaration. Donc pour dire que le gouvernement ne va pas directement se limiter à la seule déclaration et demander aux gens de l'adopter, c'est pas comme ça. Les gens ne sont pas des gendarmes. Il y a une stratégie, comme je t'ai dit. Une politique de population est trop complexe. Donc maintenant, il faut discuter. Ils vont discuter. En tout cas, nous, à notre sein, si nous avons l'information, ou à notre sein, nous allons en discuter. Après notre sein, on a les points focaux. Au niveau de chaque département, on a des points focaux. On a une commission population et développement qui est composée des responsables de différents départements. Il y a également la société civile qui est représentée dedans. Il y a les leaders religieux qui sont là. Toutes les questions de population sont débattues à ces seins. Donc, c'est suite à ça que les décisions sont prises. Je t'ai dit la politique de population qui est élaborée. Il y a des principes. On respecte les droits des populations. On respecte les valeurs culturelles. On respecte tout. Donc, ce n'est pas parce qu'il a fait cette déclaration et à la règle directement, les gens vont l'adopter. C'est comme ça. Il va avoir une sensibilisation. En tout cas, il va avoir des échanges. Il va avoir toute une arsenal dessus. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la Chine, on a parlé de la Chine. On a parlé également du Mali également, où on dit qu'on a de l'espace. Il ne faut pas comparer l'espace à la population qui est là. Parce que quand on prend le trois quarts du Mali est désertique. Est-ce que c'est des zones vivables? Non. Donc là où les populations sont concentrées, c'est des zones qui devraient être des zones vivables, où il y a le bien-être. Tout est là pour permettre à la population vraiment de s'épanouir. Donc c'est ce que nous voulons. Mais on ne peut pas dire que directement comparer parce que le désert est là, le truc là, il faut directement faire des enfants. Non.
D'accord. Et pour revenir à la question, la jeunesse malienne est-elle un risque ou un potentiel?
C'est ce que j'ai dit. La jeunesse peut être un risque, ça peut être une opportunité. Une opportunité dans la mesure où les jeunes qui sont là, ils sont bien éduqués, ils sont bien soignés et on a de l'emploi pour ces jeunes-là, c'est une opportunité pour nous. Il ne sert à rien de se multiplier, d'avoir des jeunes qui ne sont pas opérationnels. Donc, quand on parle, la population, ça a été dit, la jeunesse est toujours une opportunité. Mais à ce stade, ce que nous voyons, ce que nous constatons, on ne peut pas parler de défi par rapport à cette. Il faut qu'il y ait des mesures idoines pour pouvoir vraiment essayer de créer l'adéquation, comme on a dit, qu'il y ait une adéquation entre la croissance de la population qui est là et la croissance économique qui est là, pour une bonne répartition sur le territoire et pour une bonne répartition de nos ressources que nous avons. Et là, la jeunesse qui est là, va être une opportunité pour nous s'ils sont aptes à travailler, à produire, à être bien soignés.
D'accord. Oui. Alors, Madame Djenaba Idara, vous êtes là?
Oui, je suis là.
D'accord. Alors, est-ce que vous partagez les mêmes propos que Madame Yattara?
Oui. Madame Yattara a dit, c'est vrai. D'abord, j'ai parlé de la sensibilisation. Et quand il s'agit du développement, non, on est d'accord. Quand il s'agit du développement, il faut diminuer les naissances pour que les enfants puissent vivre, bien vivre, et les parents puissent prendre leurs besoins en charge.
Mais il y a la pauvreté, le gouvernement, une bonne gouvernance. Parce que les enfants que vous voyez là à Bamako, quand vous allez dans le coin de Brousse, là, vous ne verrez pas beaucoup d'enfants. Hein? Ils sont tous venus à Bamako. Parce que c'est là qu'on trouve à manger, c'est là qu'il y a le bien-être. Les parents, tout le monde sont venus à Bamako. Mais quand vous allez dans les coins de Brousse, là, vous allez voir seulement les vieux. Les vieux, tous les enfants, les bravalis sont à Bamako. Pourquoi ça? Parce qu'on gagne quelque chose là-bas. Donc, il faut que le gouvernement prenne des décisions pour satisfaire ces coins de Brousse-là, pour mener des actions là-bas, pour que ces habitants, ces populations puissent se prendre en charge. Quand il y a ça, il n'y aura pas de problème à Bamako ici. Bon. Il y a cela. Et bon, la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui même ne veulent pas faire d'enfants parce qu'elles sont préoccupées par le travail qu'elles vont faire, préoccupées par leur boulot. Et ça, même, j'ai dit à certaines filles, mais tu n'as fait que deux enfants, tu n'as fait que travailler, tant que c'est bon comme ça. Votre temps et notre temps là ne sont pas les mêmes. On ne peut pas faire beaucoup d'enfants comme ça. Bon, j'ai dit, non, c'est bon. S'il s'agit du développement, c'est bon. Et comme on est en train de soigner maintenant, il y a les médicaments, il y avait beaucoup de maladies, rougeole, varicelle, tout cela qui amenait les décès. Et c'est pour cela que les femmes faisaient beaucoup d'enfants. Si les sont décédés, ça va, il reste certains. Bon, comme tout ceci ont disparu, donc on peut prendre les précautions. Mais il faut sensibiliser, il faut informer la population là-bas. C'est là que, par là qu'on échoue. Parce qu'on vient seulement, on amène les activités, on amène les thèmes, on nous pose ça bruit, sans sensibilisation, sans informer la population. C'est pour cela que les actions de développement qu'on amène, on échoue. Ça a été le cas pour la réforme constitutionnelle. Il faut informer d'abord la population, les informer, les sensibiliser, communiquer avec la population, soit à l'encontre. Mais sinon, les femmes, si elles sont informées, sensibilisées, elles seront d'accord. Parce que ça dépend, beaucoup de femmes même ne veulent pas faire d'enfants maintenant parce qu'elles disent que c'est fatigant. Enfin, ça, même celles qui en ont là, elles provoquent la césarienne. Parce qu'elle ne veut pas avoir de douleur. Dans ce cas, vraiment, je partage son idée.
D'accord. Alors, nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ce soir, nous parlons de la réduction de la natalité en Afrique. Nos invités, Balkissa Yattara, chef de division recherche à la Direction nationale de la population, Ali Tunkara, sociologue, Djenaba Idara, présidente du collectif des femmes du Mali Cofem, Aminata Faye, chargée de stratégie et politique à la Fédération nationale des collectifs et organisations féminines, FENASCOM. Alors, monsieur Tunkara, selon vous, si cette loi venait à être appliquée, comment se fera-t-elle?
Je crois qu'il est quand même extrêmement important qu'on mette un accent particulier sur l'importance qu'a la sensibilisation et la communication pour l'adoption d'une telle décision si importante. Je crois que ce qui est à reprocher à nos institutions, notamment étatiques, voire continentales, c'est ce décalage entre les terroirs et l'institutionnel. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, la naissance est perçue de façon tout à fait plurielle. D'aucuns vous diront que avoir plus d'enfants est un signe de bonheur. Certains vous diront que avoir plus d'enfants, c'est même religieux. Ouais, dans une telle configuration où nous sommes face à des commentaires aussi variés et variables, le rôle de la communication est extrêmement important. Je crois que ça, c'est un rôle qui doit être joué par les pouvoirs publics. J'entends tant par pouvoir public, les parlementaires, même les élus communaux, y compris d'ailleurs aussi nos pouvoirs traditionnels. Et il est important qu'on se dise à un moment donné de l'histoire, qu'il y a des enjeux contemporains qui font qu'aujourd'hui, limiter la naissance, l'Occident s'en moque. Ce sont des contraintes qui pèsent sérieusement sur nous, lesquelles contraintes sont perceptibles dans nos quotidiens. J'ai parlé tantôt de l'éducation, j'ai parlé tantôt de la santé, j'ai parlé tantôt de tous ces facteurs même liés à la radicalisation, à tous ces flux migratoires. On avait évoqué le cas de la jeunesse. Si vous prenez aujourd'hui la jeunesse malienne, même celle qui fréquente l'école classique, elle se trouve dans une situation chaotique, une jeunesse déboussolée, qui n'est pas outillée, laquelle jeunesse justement est facilement enrôlable par l'offre intégriste violente. Si vous allez un peu dans le centre du Mali, dans les régions dites nord, l'une des raisons essentielles d'enrôlement dans les différents mouvements extrémistes violents, ce serait lié au chômage justement. C'est le non-accès à une éducation soignée. Je suis d'accord que la Chine est tout à fait populaire. Mais vous reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui, même en Chine, la naissance est sérieusement limitée. À tel enseigne qu'il y a même des politiques qui encouragent les gens à donner naissance. Vous prenez également les puissances dites occidentales, la même problématique aussi. La démographie se pose. Cette jeunesse malienne, pour y revenir, elle est non seulement mal formée, parce qu'effectivement les ressources, je suis d'accord avec le Conseil islamique, que les ressources sont très mal réparties, mais en dépit de cette mal répartition des ressources, vous conviendrez avec moi que nos structures d'accueil pour l'éducation, pour les soins de santé, ne sont pas suffisantes. La capacité d'accueillir toute cette jeunesse, justement, à pouvoir intégrer le corps social, se pose aujourd'hui avec acuité. Et là, à ce niveau, ce ne sont pas seulement aux autorités, notamment étatiques, qu'elles doivent jouer leur partition, mais c'est aussi nous, citoyens, journalistes, enseignants et d'autres corporations. Nous devons nous poser des questions existentielles. Est-ce aujourd'hui, dans un contexte de crise aussi mondialisée, dans un contexte de globalisation, de compétition, est-il nécessaire qu'on ait plus d'enfants mal éduqués, donc qui dit mal éduqués, donc qui seraient prêts à regagner n'importe quel groupe, peu importe leur nature? Est-ce sommes-nous aujourd'hui prêts face à l'existant? Vous allez dans nos hôpitaux, vous allez dans nos écoles, du primaire au supérieur, ce qui frappe à l'œil, c'est cette absence cruelle, justement, de l'éducation. Les gens sont très mal formés, des salles de classe qui sont censées contenir 20 étudiants ou 20 élèves contiennent à la limite 60. Vous comprendrez justement qu'aujourd'hui, l'urgence de limiter la naissance, au nom même du bon sens, s'impose à nous en réalité. Au-delà, qu'on soit politique ou religieux, je crois qu'il faut qu'on quitte carrément le domaine du sensationnel et regarde la réalité en face et se dire qu'attention, certes, l'idée vient d'Emmanuel Macron, le président français, il n'a pas à nous justement proposer son dictat. Mais en dépit justement des considérations géopolitiques, de ce sentiment noétique de la colonisation, moi je comprends bien les gens que nous recevons des leçons de la part de l'Occident. Mais en tout cas, en toute honnêteté, il est quand même important dans nos différentes sociétés aujourd'hui que la naissance soit contrôlée et ces gènes que nous avons, il est extrêmement important que ces jeunes soient également formés et qu'on arrive aussi à les donner un emploi qualifié, lequel emploi leur permettrait certainement de se mettre à l'abri d'enrôlement, à l'abri même de cette porosité religieuse. Parce que vous voyez un peu, il y a toutes sortes de religions qui débarquent, puis les jeunes sont les premières victimes. Ils s'y engagent sans aucun discernement. Ce sont ces mêmes jeunes qui vont suivre le Front de Libération des Masséna parce qu'ils sont mal formés. Ce sont ces mêmes jeunes parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à avoir un statut social valorisant. Et parce qu'ils ne travaillent pas. Donc finalement, les extrémistes violents vont les assurer un travail qui est l'action violente, mais bien rémunéré. Donc, vous comprenez comprendrez que l'enjeu lié à la démographie dépasse le seul cadre étatique. Il est quand même, c'est une, si vous voulez, c'est, ça, ça pose même des problématiques existentielles qui vont nettement au-delà du seul fait politique.
D'accord. Alors, Madame Aminata Faye, vous êtes là?
Oui, je suis là.
D'accord. Alors, selon Monsieur Tunkara, tout de suite, le taux de chômage élevé est également une source qui pousse les jeunes vers des extrémistes. Êtes-vous d'accord?
Bon, je suis un peu d'accord. Je suis d'accord avec lui. Effectivement, ce qu'il a dit. Et il y a une mauvaise répartition d'abord des ressources. Bien vrai, bien sûr, humaines, ressources, d'autres ressources. Mais il y a vraiment la déperdition des jeunes. Parce que la jeunesse, on peut compter sur eux, mais il faut une jeunesse quand même qui soit valide, qui puisse travailler. Il faut que cette jeunesse puisse être bien éduquée, bien une, et reçoive. Cette jeunesse reçoit une bonne éducation. Ça, c'est le préalable d'abord. Il ne faut pas faire des enfants pour en faire comme ça. Il faut vraiment faire des enfants qu'on peut élever, qu'on peut éduquer. Mais les faire comme ça, les laisser dans la nature comme ça, donc ça ne servira à rien d'avoir beaucoup de monde. C'est un monde qui est là, qui ne servira à rien. C'est une déperdition finalement. Et ces jeunes, au lieu que ça soit une solution, ça sera un problème. Ce sera un problème. Donc, moi, ce que je recommande, hein, parce que déjà, si on dit, on dit à la population que c'est Macron qui a décidé, il a dit cela, ils vont penser que c'est une camisole de force qu'on veut leur mettre. Mais qu'on essaie de faire une sensibilisation. Et cette sensibilisation, il y a le gouvernement. Il y a la structure chargée de la population, il y a la société civile qui est composée vraiment de toutes ces structures qui sont là. Donc on essaie de voir comment, et vous en tant que journaliste, comment on peut faire pour sensibiliser la population, que la population comprenne que vraiment cette démographie, il est temps de la freiner.
D'accord.
Pourquoi? Parce que ça ne va pas avec le développement. On est là.
Oui, nous allons. Merci bien. Alors, Madame Yatara, en 30 secondes, selon vous, que faut-il faire pour une bonne compréhension de cette situation à la population?
En fait, je crois que je l'avais dit, hein, nous sommes en train d'aller vite au besoin. Parce que moi, en tant que représentant de la Direction nationale de la population, c'est ce matin, à travers votre appel, que j'ai reçu l'information. Pour dire qu'au niveau du département, nous n'avons pas échangé par rapport à cette question. Vous voyez? Donc, je t'ai dit, pour toutes les questions qui touchent à la population, on n'en discute pas seul. Donc, c'est tout un monde qui est là, qui discute vraiment du contenu de la chose.
D'accord.
Pour pouvoir au moins porter à la connaissance de la population.
Okay.
Et je sais, par rapport à cette situation, si jamais cette question et cette déclaration est acceptée par les autorités, nous, Direction nationale de la population, nous serons touchés. Et toutes les mesures qui doivent être prises, seront prises. Et s'il y a des sensibilisations à faire, s'il y a des lobbying à faire, seront faites, Inch'Allah.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Cela met fin à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités. À la présentation, Fatmata Togola, la mise en onde de Philly Dambélé, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara, avec une réalisation de Ibrahim Diallo et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo de Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.